pretend.
Feel the France Info.
L'info juste.
Il est 1h, le flash Emma Jacob. Nouvelle attaque russe meurtrière en Ukraine ce dimanche soir. 4 personnes sont mortes et 17 ont été blessées dans la ville de Kharkiv, selon le maire de la ville, déjà visée par une attaque de drone la semaine dernière. À Genève, les négociations ont duré toute la journée pour tenter de trouver un accord de paix près de 4 ans après le début de l'invasion russe. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit très optimiste. Ces discussions entre responsables ukrainiens et européens portaient sur le plan de paix envoyé par les États-Unis à l'Ukraine il y a quelques jours. Une première version perçue comme une capitulation ukrainienne par l'Union européenne. Le Hezbollah confirme la mort de son chef d'état-major après une frappe israélienne ordonnée par Benjamin Netanyahou sur un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche. En tout, l'attaque a fait 5 morts et 28 blessés selon le ministère de la Santé libanais. La Slovénie dit non à la légalisation du suicide assisté, résultat d'un référendum ce dimanche. 53% des Slovènes s'y sont opposés. Contrairement aux parlementaires, la loi avait été adoptée en juillet dernier. Boualem Sansal assure vouloir une réconciliation entre la France et l'Algérie. L'écrivain franco-algérien de 81 ans, gracié par le président algérien après un an de détention, s'est exprimé sur France 2 ce dimanche soir, mais affirme aussi contrôler chacun de ses mots. Le romancier sera l'invité de la grande matinale de France Inter ce lundi pour sa première prise de parole à la radio. En Isère, après 46 heures de garde à vue, un homme de 39 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne a été mis en examen et placé en détention provisoire ce dimanche soir. Le corps de cette femme de 27 ans a été retrouvé calciné dans une voiture mercredi dans un champ à Saint-Marcel-Bel-Accueil entre Lyon et Grenoble. Selon le parquet de Grenoble, l'aide-soignante avait le crâne fragmenté. Le suspect a reconnu l'avoir tué. À Calais, une centaine de cyclistes ont rendu hommage à Cindy Morvan lors d'une balade à vélo ce dimanche. L'ex-championne de France de cyclisme sur piste a été tuée par balle à l'âge de 39 ans par la compagne de son ancien conjoint le 31 octobre dernier. Les municipales seront un galop d'essai avant 2027, prévient Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting en Seine-Saint-Denis. La France Insoumise a officiellement lancé sa campagne pour les municipales de mars prochain devant 2000 militants. LFI présentera des listes dans plus de 500 communes avec l'objectif affiché d'entrer dans les conseils municipaux. Triplé historique pour l'Italie. Victorieuse face à l'Espagne en finale de la Coupe Davis ce dimanche soir à Bologne. Les tennismen italiens remportent la compétition pour la 3e fois d'affilée, une première, et ce malgré l'absence du numéro 2 mondial Yannick Sinner. Lille remonte à la 4e place du classement de Ligue 1 de football, victoire 4-2, dont un doublé d'Olivier Giroud face au Paris FC ce dimanche. Les Lillois sont juste derrière Lens, 3e. Le PSG toujours en tête après cette 13e journée suivie de l'Olympique de Marseille.
Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info.
Le choix France Info.
Comment mieux protéger les espèces animales et végétales menacées par le commerce international? C'est le choix de France Info ce matin et c'est tout l'enjeu de la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction et qui commence demain à Samarcande en Ouzbékistan. Dans ce contexte, le Brésil veut interdire la commercialisation du pernambouc, une espèce d'arbre endémique du nord du pays, un arbre emblématique avec un problème très particulier, c'est que c'est le bois utilisé pour fabriquer des archets de musiciens professionnels pour les violon alto, etc. C'est d'ailleurs sa seule utilisation actuelle. Bonjour Augustin Ourlier.
Bonjour.
Alors entre les musiciens et les artisans archetiers, c'est tout un secteur qui est menacé par cette mesure.
Dans cette interprétation du poème « Amitié » composé par Eugène Isaïe, Émilie Belot, violoniste à l'Opéra de Paris, utilise un archet en bois de Pernambouc, comme tous les musiciens professionnels de violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Le musicien va très tôt chercher à faire l'acquisition d'un archet en Pernambouc. Ça va parfois lui prendre des mois, voire des années, pour trouver l'archet qui correspondra à sa technique, à sa personnalité musicale. Moi, je joue un archet que j'ai depuis mes 15 ans, que je continuerai à jouer aussi longtemps que je le pourrai, parce que j'ai pas trouvé l'équivalent aujourd'hui en termes de qualité.
Si le pernambouc est interdit au commerce, chaque passage de frontière avec un archet nécessitera d'avoir une autorisation donnée par la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction, avec des délais qui peuvent dépasser les 6 mois.
Ça certains aéroports ne sont pas du tout habilités à traiter ces questions administratives. Donc on pourrait se retrouver avec des archers consignés, confisqués. Je pense que ça signerait tout simplement l'arrêt des tournées.
Certaines directions d'orchestre commencent déjà à suggérer aux musiciens de passer aux archers en carbone fabriqués en Chine. Une hérésie pour Émilie Belot et une grosse perte potentielle pour les artisans archetiers. Arthur Dubroca tient un atelier à Paris depuis plus de 20 ans. Avec la nouvelle protection du Pernambouc, il aurait besoin d'un agrément pour la moindre réparation, fabrication, achat ou vente.
On comprend vite que c'est une entrave au commerce. On ne va pas passer l'année sur des démarches administratives pour un travail qui pourrait prendre quelques heures sur l'établi.
Arthur Dubroca a peur de perdre des clients, notamment les artistes étrangers qui réparent leur archet entre deux concerts à Paris.
Nous, on estime à environ 30% de notre activité avec des clients étrangers. Ce qui veut dire que si jamais on perd cette clientèle, nous on est obligé de fermer l'atelier.
L'artisan dénonce une mesure de protection disproportionnée. Selon ses estimations, la fabrication d'archers pour toute l'Europe nécessite l'abattage d'une quinzaine d'arbres par an.
Et à l'inverse, pour Maude Lelièvre, la présidente de l'UICN France, l'Union internationale pour la conservation de la nature, interdire la commercialisation de ce bois, le Pernambouc, n'a rien de disproportionné vu la menace qui pèse sur l'espèce.
Le Pernambouc, c'est plus de 80% de l'espèce qui a disparu en trois générations, de façon extrêmement rapide. Donc moi, je peux comprendre le point de vue des acteurs économiques qui craignent pour leur secteur économique. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir des règles strictes. Sur cette espèce comme sur d'autres, c'est un ensemble de mesures qui est nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut protéger cette espèce, il faut une application rigoureuse et des incitations à utiliser du bois cultivé et pas des espèces sauvages.
Et si on regarde cette ITES dans son ensemble, quels sont les gros enjeux de cette édition 2025 ?
Alors, on va avoir des débats espèce par espèce. Il y en a peut-être une qui va être intéressante à suivre, qui nous concerne peut-être plus sur le plan français. C'est par exemple le surclassement du requin océanique. On sait que ce sont des espèces qui sont très menacées d'extinction, 70% de l'espèce, avec un déclin qui est notamment dû au commerce illégal des nageoires. S'il n'y a pas des mesures qui sont prises par le commerce, on ne pourra pas avancer sur la protection des requins, les requins et les raies. Ils souffrent, comme d'autres espèces, de ne pas avoir une image très sympathique, mais c'est une espèce absolument essentielle, donc à suivre.
Vous représentez une organisation de protection de la nature. Est-ce que cette CITES 2025 vous donne de l'espoir ?
La CITES, c'est toujours utile, c'est une COP technique, donc ce n'est pas toujours facile d'arriver à suivre, mais on aborde cette CITES de façon extrêmement positive, notamment sur un point qui concerne la France, qui est la neutralisation des marchés de produits issus du braconnage, comme l'ivoire, les écailles, qui restent toujours des forts marchés de braconnage. Il y a un appel à la fermeture totale des marchés nationaux illégaux. On est concerné en France, on est concerné en Europe, donc on aborde de façon positive cette CITES.
Maude Lelièvre, présidente de l'UICN France, l'Union internationale de la conservation de la nature, et le choix de France Info, signé ce matin Augustin Ourlier, à retrouver sur franceinfo.fr.
Le billet science.
Les découvertes de Bill François, qui est avec Benjamin Fontaine.
On part pour une plongée maintenant avec vous, Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Plongée dans les profondeurs de l'océan pour découvrir une des plus rares baleines au monde. Si rare que personne ne l'avait encore jamais vue vivante. Elle a été observée ces derniers mois. À quoi ressemble-t-elle au juste ?
Elle appartient à la famille des baleines à bec. Ce sont des sortes de dauphins géants de couleur gris-marron avec des défenses qui dépassent de leur bouche un peu comme celles d'un sanglier. Mmh. Ça paraît très bizarre, vous n'en avez sans doute jamais vu.
Non.
Et pour cause, elles sont très difficiles à repérer. Déjà parce qu'elles n'émettent pas de souffle en surface et en plus parce que ces grands timides se cachent la plupart du temps à plus de 3500 mètres de profondeur où ils peuvent rester en apnée plus de 4 heures, les meilleurs plongeurs de tous les mammifères marins. Il existe 24 espèces de baleines à bec, mais on ne sait presque rien sur aucune d'entre elles.
Et parmi ces 24, donc, il y en a qu'on n'a jamais vu.
Et c'était le cas de la baleine à bec à dents de ginkgo. Nommée ainsi car ses dents rappellent les feuilles du bel arbre ginkgo biloba, qui a le feuillage tout doré en ce moment à l'automne. Cette espèce ne nous était connue jusqu'à présent qu'à travers quelques ossements et cadavres de spécimens échoués. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'une équipe de chercheurs de l'Oregon et du Mexique qui a passé 5 ans à la traquer sur toutes les mers du globe sans l'avoir jamais vue, juste en suivant la piste de sons susceptibles d'être ceux qu'elle émettait. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée. Ils l'ont enfin observée de leurs propres yeux au large du Mexique.
Mais comment sait-on que c'est elle si on ne l'a jamais vue ?
Avec une arbalète, les chercheurs ont prélevé un petit morceau de peau et de gras de l'animal et ont donc pu identifier son ADN. Ça a d'ailleurs été très difficile car un albatros a tenté de dévorer l'échantillon. C'était moins
effectivement.
Une. Mais maintenant, on sait donc non seulement à quoi ressemble cette baleine vivante, mais aussi à quoi ressemble son cri, puisqu'il a été enregistré au moment de l'observation. Et en analysant ses sons, on a pu retracer ensuite des parcours de ses congénères à travers le Pacifique. Cette découverte permettra sans doute de mieux protéger ces animaux très menacés par les explosions d'armes sous-marines qui les font s'échouer. Et surtout, elle nous prête à rêver à la part inexplorée de l'océan, dont nous ne connaissons à ce jour que moins de 10% des espèces vivantes. Mmh. La science souhaite donc à cette étrange baleine ginkgo de revenir nous voir un peu plus souvent et de nous présenter d'autres géants inconnus.
Mais oui, on sera ravis de les rencontrer, vous reviendrez nous en parler. Merci Bill, rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau Billet Science. En attendant, on vous retrouve sur franceinfo.fr.
C'est ma santé, conseil.
Comment lutter contre l'obésité? De nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché, des médicaments dits GLP-1. Alors, est-ce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les autres? À qui s'adressent-ils? Quels sont les risques s'ils ne sont pas bien utilisés? C'est ma santé conseil maintenant avec Sébastien Tchernikov. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de nutrition à l'Université Paris-Cité, chef du service nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Quand on parle de ces nouveaux médicaments, quelle est leur action sur le corps et sur le cerveau?
Ces nouvelles molécules, elles cherchent à finalement mimer l'effet des hormones naturelles qui contrôlent l'appétit. Et donc ces nouveaux médicaments vont envoyer un signal au cerveau qui va être un rassasiement plus fort, plus durable, plus rapide et qui va réduire finalement la sensation de faim, qui va donner envie de manger moins, mais qui va aussi ralentir la digestion, ce qui va avoir un effet de rassasiement sur le long cours.
Et à qui s'adressent ces médicaments? Alors, à partir de quel moment on peut dire que cette personne est dans un état d'obésité?
L'obésité, elle est définie partout dans le monde par un indicateur qui s'appelle l'indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a permis de donner une nouvelle façon, une nouvelle définition de la gradation de l'obésité et de ses complications, qui ne va pas uniquement se baser sur l'indice de masse corporelle, mais qui va par exemple utiliser des notions de retentissement sur la qualité de vie. On comprend bien qu'au-delà du poids, si on n'est pas capable de marcher 50 mètres ou 100 mètres parce qu'on a une arthrose évoluée des genoux, ou par exemple parce qu'on a eu un événement cardiovasculaire par le passé, eh bien entendu, le niveau de complexité de l'obésité n'est pas le même. Et de la même façon, il existe en France une organisation des soins pour permettre aux patients, en fonction justement de son niveau d'IMC et de son niveau de complications associées à l'obésité, d'être orienté soit vers le médecin généraliste en première intention, soit vers des médecins spécialistes de ville, soit vers ce qu'on appelle des centres spécialisés obésité, qui vont prendre en charge, en prendre en soin les patients qui ont une obésité les plus sévères et les plus compliquées. Mais le mot-clé, ça va être le long cours pour cette maladie qu'on appelle maladie chronique.
En clair, ce ne sont pas des médicaments que l'on prend parce qu'on veut perdre 2 ou 3 kilos avant d'aller sur la plage l'été.
Absolument, vous avez complètement raison. Ces médicaments ne doivent pas être prescrits en première intention par les médecins. Ils sont prescrits lorsqu'il y a une prise en charge nutritionnelle, diététique, activité physique, éventuellement psychologique, pendant au moins 6 mois. Et en cas d'échec de cette prise en charge, en l'absence de perte de poids suffisante, eh bien, ces médicaments peuvent être prescrits.
Bon, mais comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires, j'imagine, des risques.
Bien entendu, c'est la raison pour laquelle ces médicaments ne sont pas faits pour de l'esthétique. Ces médicaments, ils sont faits pour des personnes avec une maladie chronique. Il y a des effets indésirables, principalement des effets indésirables digestifs, nausées, diarrhées, constipation. Il y a un risque de calcul dans la vésicule. Et puis, il y a un risque au long cours éventuel de carences nutritionnelles, des carences en vitamines, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument prendre ces médicaments de façon encadrée et avec un suivi médical.
Il y a donc une prescription médicale, et j'insiste là-dessus, ça veut dire attention aux ventes illégales sur Internet. Il y a de faux médicaments.
Oui, les médicaments doivent être achetés en pharmacie avec une prescription médicale et encadrée.
Question importante, Est-ce que ces médicaments, ces nouvelles molécules sont remboursées par la Sécurité sociale? Parce que c'est important pour ceux qui auraient besoin de ce type de médicaments.
C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ces différents traitements médicamenteux de l'obésité, les TMO, comme on aime les appeler dorénavant, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a des discussions en cours. Mais c'est un enjeu majeur puisque aujourd'hui, l'obésité représente 18% de la population en France. Si on se focalise sur l'indice de masse corporelle au-delà de 35, au-delà de 40, c'est 6% de la population, donc c'est un sous-groupe de ces 18%. Et si on prend en compte le surpoids plus l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle au-delà de 25 et bien plus, eh bien c'est la moitié de la population française qui est concernée par cet excès de poids, surpoids ou obésité.
Merci beaucoup Sébastien Tchernikov, chef du service nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. La lutte contre l'obésité, l'efficacité des nouveaux médicaments, c'est Ma Santé Conseil tous les dimanches avec l'APHP Hôpitaux de Paris sur France Info. Et j'en profite pour citer votre ouvrage Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant, coécrit avec le professeur Selam. Merci à vous.
Minuit 5h, France Info, l'info juste.
C'est mon assiette, Bernard Thomasson.
Né à Versailles avec des origines corses, Jean-Baptiste Laverne-Morazzani est issu d'une famille de restaurateurs. Il a appris auprès de grands comme Yannick Aleno avant de s'installer à son compte à 23 ans et d'obtenir aussitôt l'étoile Michelin. C'est un jeune chef très inventif.
Je veux que mes cuisiniers y cuisinent, que mes pâtissiers pâtissent et qu'ils ne soient pas dans une case. Je veux qu'ils fonctionnent aussi à l'instinct. Donc on a vraiment une cuisine comme ça. On essaie qu'elle soit vivante, qu'elle soit acide, qu'elle soit amère, qu'elle soit tiède, chaude, froide, vous voyez, mais il faut qu'elle vive, quoi. Nous, on a toujours été très branchés sur le végétal. C'est vrai qu'on a un plat tout autour de l'oignon qu'on retravaille presque comme une viande. On arrive à trouver des textures, des goûts presque animaux, quoi. C'est d'autant plus bluffant pour un client de se faire surprendre par un oignon que par un filet de bœuf wagyu, vous voyez ce que je veux dire.
Jean-Baptiste, vous nous conseillez une table sympa à Versailles?
C'est un restaurant thaïlandais qui s'appelle l'Éléphant d'Argent. Tout est fait sur place, ça me régale de voir ça.
L'éléphant d'argent se trouve au cœur de Versailles, passage des deux portes, juste à côté de la place du marché. Il appartient à Guillaume Théa et à sa femme Lee.
On a racheté, c'était un restaurant cuisine française avant, en 2003. Et là, on a transformé, on a changé en cuisine thaï. Et on est d'origine du Cambodge, cambodgien, mais on fait la cuisine thaï. Il y a une telle ressemblance en cuisine thaï et cambodgienne. Depuis notre arrivée en France, on est là-dedans, quoi. On est dans la restauration. J'ai travaillé pour les autres et après, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte.
Ici, la salle ne désemplit pas. Les clients reviennent à l'image de Patrice.
Très, très bon. C'est le meilleur. Sur Versailles, on mange uniquement ici.
Et on mange quoi en général? Vous mangez quoi, vous?
Tout ce qu'il y a sur la carte, on a tout essayé. J'aime bien salade aux fleurs de bananier.
Entrée à 8 euros, plat à 17, dessert à 8 et une formule déjeuner en semaine proposée pour 16 euros. Lee, la patronne, défend sa cuisine.
Tout est bon ici. Ce qu'on fait, c'est notre spécialité. Hein. On n'a pas beaucoup de plats.
C'est quoi les plats principaux?
Frimaire à l'ail au poivre, frimaire à l'échalote. Après, vous avez des currys rouges, du curry vert, des plats au lait coco. Et aussi, il y a des plats sautés.
L'éléphant d'argent, un restaurant thaï où tout est fait main à Versailles, recommandé par le chef étoilé de la Table du 11, Jean-Baptiste Laverne-Morazzani. Les entretiens sont à réécouter dans leur intégralité sur franceinfo.fr à la page C'est mon assiette.
L'œil de Julie.
Et c'est l'heure de retrouver l'œil de Julie. Bonjour Julie Vialon.
Bonjour.
Et ce matin, disons-le, on a tous déjà renoncé à regarder un film. Pourquoi ? Parce qu'il était trop long. Tiens, un dernier exemple en date. On sait désormais que le nouvel Avatar, le 3, va faire 3h15. Et c'est vrai que sur les réseaux, Julie, les internautes s'interrogent.
The Batman, 2h56. Babylon, 3h09. Boys Afraid, 2h59. Une bataille après l'autre, 2h42.
Ça fait beaucoup là, non?
Et la liste est encore longue. Ces films sont sortis ces dernières années et il faut avoir la vessie bien accrochée pour tenir toute la séance sans faire une pause pipi. Et certains internautes s'en plaignent sur TikTok.
Mais c'est quoi ce bordel? 3h15 pour Avatar 3, ça vient de tomber.
C'est M. James Cameron qui l'a annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter en 3h15 ?
Nous sommes nombreux à avoir l'impression que les films sont de plus en plus longs. Mais c'est peut-être bien une hallucination collective. En fait, la durée des longs métrages n'a pas vraiment bougé depuis les années 1920. 1h50 en moyenne, d'après le journal Le Monde. Les films longs, voire très longs, existent depuis des dizaines d'années. Laurence d'Arabie, Autant en emporte le vent, Ben-Hur, Titanic, tous durent plus de 3 heures.
Bon, sauf qu'on a quand même bel et bien l'impression que c'est plus long. Comment on l'explique ?
Déjà, les blockbusters se sont répandus. Ils sont devenus un genre à part entière au cinéma. Les Marvel, la saga Harry Potter, des films souvent très longs et qui marchent très bien. Et d'après Mélanie Toubeau de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, ils sont plus projetés et restent plus longtemps en salle que les autres. Donc forcément, ça nous donne l'impression de voir plus souvent des films longs.
Et puis, vous parliez d'hallucination collective. Là-dedans, il y a le streaming aussi qui joue un rôle.
Avec un abonnement mensuel, on a accès à un nombre de films incalculable. Quand on regarde un film à la maison, on peut facilement mettre pause pour aller chercher des pop-corn ou jeter un œil à nos téléphones. Alors, on regarde des vidéos sur les réseaux, parfois même en accéléré. Alors, regarder un film pendant 3 heures sans rien faire en même temps, c'est compliqué. Ouais. On n'a plus l'habitude, le temps nous paraît long. Selon Mélanie Toubeau, c'est peut-être même le cinéma qui devrait s'adapter à ses spectateurs en réhabilitant les entr'actes.
Ouais,
pourquoi pas ? En fait, les films ne sont pas plus longs qu'avant, c'est nous qui sommes moins patients.
Bon voilà, et votre chronique, Julie Vialon, qui elle passe très vite, puisque elle ne dure, rappelons-le, qu'à peine plus de 2 minutes. Merci Julie.
France Info Junior.
Dans France Info Junior avec une visite guidée de l'exposition Manga Tout un Art. C'est à voir au musée Guimet à Paris et c'est en compagnie de Cécile Ribeau-Cailleul et de son invité.
Au milieu des porcelaines, sculptures et des estampes japonaises, place au manga qui orne les murs du musée Guimet. Manga Tout un Art, c'est le titre de cette exposition exceptionnelle qui vient d'ouvrir au musée Guimet et jusqu'au 9 mars prochain. Bonjour Estelle Bauer.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice des expositions japonaises du musée Guimet. Un grand merci d'ouvrir les portes de ce magnifique musée à nos journalistes en herbe du jour. Ils s'appellent
Gaston, Alexandre, Mathieu et Adam.
Je crois qu'on peut partir pour une visite guidée qui va être exceptionnelle avec vous. Cette Bauer. On vous suit ?
Ouais. Donc là, on arrive dans la première salle dans laquelle on trouve à la fois des planches de manga, donc des vrais dessins faits par des mangaka, et aussi du théâtre de papier, le Kamishibai, qui est un peu l'origine, enfin une des origines du manga, c'est-à-dire c'était comme du théâtre ambulant, mais avec un conteur qui raconte des histoires avec des planches qu'il montre les unes après les autres.
Qui a créé le premier manga et en quelle année ?
Oui, alors ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre et de dire exactement en quelle année. En tout cas, dans l'exposition, le manga le plus ancien qui est présenté, le, disons un vrai manga avec des cases et des bulles, c'est Norakuro, donc Norakuro, le petit chien noir, un chien soldat, et qui a été inspiré par Félix le Chat. Vous pouvez voir ici. Hein. En fait, c'est avant la guerre, ça date des années 1930, et là, c'est plutôt proche de la bande dessinée, mais on lit déjà de la droite vers la gauche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment déjà de la bande dessinée en noir et blanc. Mais ça ressemble un petit peu à du théâtre, en fait. On a l'impression que les personnages sont debout sur la ligne de la case, comme s'ils marchaient sur une scène de théâtre.
Pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc ?
Ah, alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison économique, comme ils doivent produire de manière très rapide. Ben voilà, on dessine juste, et parce que mettre la couleur, appliquer la couleur, ce serait plus long. C'est aussi moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et puis, je pense qu'il y a aussi une tradition au Japon. Hein. Le Japon, c'est un pays depuis des siècles où on écrit et on dessine avec un pinceau et de l'encre. Donc, il y a un vrai goût pour le noir et blanc.
Que signifie le mot manga ?
Ça, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, le mot manga, au départ, ça signifie dessin varié. Ga, ça veut dire dessin. Et man signifie varié, spontané. L'idée aussi de quelque chose qui est très vaste, un peu comme un océan. Donc on peut traduire aussi par océan d'images. Mais le mot ensuite a évolué. Et donc, à la fin du 19e siècle, les Japonais l'ont utilisé pour traduire le mot caricature. Et c'est seulement dans les années 1920, à peu près, qu'il a été utilisé pour traduire le mot bande dessinée. Ça, c'est un Dragon Ball. Voilà, vous voyez, c'est un dragon. C'est une statuette qui a été offerte par le shogun à Napoléon III, il y a à peu près 150 ans. Hein. Si vous regardez bien, on voit qu'il y a un dragon qui semble émerger des flots et qui porte une boule de cristal. Donc, vous voyez, l'idée d'associer un dragon à une boule de cristal, en fait, ça existait déjà bien avant la création du manga.
Sur cette boule de cristal, j'ai remarqué qu'elle est transparente, alors que dans Dragon Ball, elle est plutôt orange et il n'y a pas les étoiles dessus.
Ah, bah c'est une belle remarque. C'est pas exactement la même chose, effectivement. Dans Dragon Ball, l'auteur a dû s'inspirer de la tradition, mais il l'a réinterprétée, il l'a transformée à sa manière.
Je voudrais savoir dans quel manga on peut retrouver la grande vague de Hokusai.
Alors, la grande vague de Hokusai, on la retrouve encore dans One Piece.
Et on la retrouve dans cette exposition aussi ?
Alors oui, dans cette exposition, on la retrouve. Donc on va voir la vraie grande vague de Hokusai, mais on va aussi voir comment est-ce qu'elle a été déclinée dans la bande dessinée contemporaine française.
Et je voulais vous demander si dans cette exposition, il n'y avait que des mangas japonais ou aussi des français ?
Que de mangas japonais. C'est vraiment une exposition sur, voilà, sur le manga japonais, mais l'affiche a été faite par un mangaka français, Renaud Lemaire.
Il y a combien d'œuvres qui sont exposées ici ?
En gros, il y a à peu près 600 œuvres qui sont exposées, donc c'est considérable. Et il y a environ 130 pages de planches originales de manga.
Merci beaucoup à nos journalistes en herbe de France Info Junior et à vous surtout, Estelle Bauer, conservatrice des collections japonaises ici au musée Guimet.
Manga tout en art.
C'est jusqu'au 9 mars.
Il ne faut pas la rater.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimashita.
Sayonara.
Estelle Bauer avec Cécile Ribaud-Cayol et ses journalistes en herbe dans France Info Junior. C'est à réécouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.
La playlist France Info.
La playlist de France Info, chaque dimanche, les coups de cœur du service culture. Et ce soir, Anne Chépeau, vous avez choisi le nouvel album de la chanteuse Marion Rampal.
Song for Abe est un hommage à la chanteuse de jazz américaine Abe Lincoln, décédée il y a 15 ans. Musicienne et militante, engagée notamment dans la lutte pour les droits civiques. The music is the magic and the... Music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. Marion Rampal fait sien le répertoire de la chanteuse, loin de toute imitation, dans un style folk jazz. Deux invités sur cet album hommage, le guitariste américain Bill Frisell et le saxophoniste Archie Shepp, 88 ans, qui a travaillé avec Abe Lincoln et avec lequel Marion Rampal interprète une chanson originale. Parmi les morceaux d'Abe Lincoln repris par la chanteuse, Learning How to Listen.
I'm learning how to listen, how to hear a melody. How to know the song I'm singing, how to feel and let it be. Learning how to listen for the rhythm of the night. How to keep it very simple, how to make it sweet and light. Learning how to listen. For the songs I name inside, and I claim.
Marion Rampal est en concert mercredi et jeudi à Paris, le 12 décembre à Lillebonne et le 13 décembre à Bayeux.
Music is a lover.
Marion Rampal dans la playlist d'Anne Chépeau sur France Info.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.
Go to sleep, you little babe. 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 Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little 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 babe. Everybody's gone in the cotton and the cold. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little 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 babe. Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep. Pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with the red shoes on, gonna meet another loving babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
You and me and the devil makes me and the devil makes no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come and lay your bones on the alabaster stones, on the alabaster ever loving babe.
L'info juste.
Il est 1h30, le flash Emma Jacob. Le futur accord de paix entre l'Ukraine et la Russie devra pleinement respecter la souveraineté ukrainienne. Communiqué de la Maison-Blanche ce dimanche soir après une journée de négociations en Suisse entre responsables américains, ukrainiens et européens. Objectif, trouver un accord sur la base du plan de paix envoyé par Washington à Kiev il y a quelques jours. Le texte prévoit notamment l'abandon de plusieurs régions ukrainiennes à la Russie, des concessions dénoncées par l'Union européenne. Il y a quelques heures, une nouvelle frappe russe a fait 4 morts et 17 blessés dans la ville ukrainienne de Kharkiv, selon les autorités locales. Une visite de 20 minutes sous haute sécurité à Oléron. L'ambassadeur de Russie en France est attendu ce lundi sur l'île pour fleurir les tombes de soldats soviétiques héros de la Seconde Guerre mondiale. Les familles ukrainiennes réfugiées en Charente-Maritime sont vent debout contre cette venue. Le diplomate de Poutine ne recevra aucun accueil protocolaire, précise le préfet. Le Hezbollah confirme la mort de son chef militaire, tué ce dimanche dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. L'homme était l'un des plus hauts responsables de l'organisation islamiste, une attaque ordonnée par Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien accuse les autorités libanaises de ne pas en faire assez pour désarmer le Hezbollah. Les utilisateurs australiens de Snapchat devront bientôt renseigner leur âge pour accéder au réseau social, annonce de la plateforme. Le gouvernement australien veut lui interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes mineurs dès le 10 décembre prochain. TikTok, Facebook ou encore Instagram devront supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans sous peine d'amende. La petite fille de l'ex-président américain John Fitzgerald Kennedy n'a plus que quelques mois à vivre, selon ses médecins. Tatiana Schlossberg, 35 ans, révèle être atteinte d'un cancer en phase terminale. La journaliste a aussi critiqué l'administration Trump et ses coupes budgétaires dans de nombreux hôpitaux américains, ainsi que l'action de son cousin Robert Kennedy Jr., anti-vax assumé en poste au ministère de la Santé. Lui était dans un coma végétatif depuis 20 ans après un accident de scooter en Thaïlande. Le français Benjamin Danielou est mort à l'âge de 40 ans ce dimanche dans un hôpital breton. Sa famille réclamait son euthanasie depuis de nombreuses années. Son agonie a été terrible, témoigne son père auprès d'Issy Armorique, ex-France Bleu. Gérald Darmanin veut s'attaquer aux règles d'application des peines des narcotrafiquants en réaction à l'autorisation de sortie d'un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pour se rendre à un entretien avec un possible futur employeur. Une décision du juge d'application des peines incomprise par les syndicats d'agents pénitentiaires. Fin de la 13e journée de Ligue 1 de football ce dimanche. 0-0 pour Auxerre face à Lyon. Nantes et Lorient se sont neutralisés un but partout. Toulouse s'est inclinée à domicile face à Angers 1-0. Brest s'impose sur sa pelouse 3-2 face à Metz. Enfin, le Paris FC n'a pas fait le poids face à Lille. Victoire des Nordistes 4-2.
Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. Le 8:30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Sirot.
Bonjour Alice Ruffaut.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, ministre délégué aux armées depuis donc assez peu de temps. On va évoquer avec vous un certain nombre de sujets. Ils sont nombreux. Il y a la menace russe, les conséquences en France de ce qui se passe en ce moment, l'enlisement aussi du budget au Parlement, le contexte international. Évidemment, c'est notre premier sujet avec cet ultimatum pour l'Ukraine, accepter ou non le plan de paix de Donald Trump d'ici jeudi prochain, d'ici Thanksgiving. On va parler aussi du rôle des Européens qui semble se préciser aujourd'hui. D'abord, à vos yeux, ce plan de paix, c'est une capitulation, comme le disent certains, ou il y a des choses à garder ?
Alors, premièrement, la situation, vous l'avez décrite, elle est quand même assez grave. C'est une situation qui est lourde dans la période actuelle, sur le plan international, pour nous, pour l'Europe, pour l'Ukraine, etc. Deuxièmement, il y a ce plan qui a été posé sur la table par les Américains, dont le président des États-Unis d'Amérique dit lui-même qu'il est amendable, qu'on peut travailler, etc. Et troisièmement, il y a la position des Européens. Et la position des Européens, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a pas de scénario dans lequel la dignité et la liberté de l'Ukraine sont négociables. Le président Zelensky s'est exprimé dans un discours le 21 novembre dans lequel il a martelé la question de la dignité et de la liberté, le jour de la dignité et de la liberté. La dignité et de la liberté de l'Ukraine, c'est sa souveraineté, elle n'est pas négociable.
Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a l'impression que les Européens, encore une fois, ont été mis devant le fait accompli avec ce plan complètement rédigé par les Américains, avec un doute d'ailleurs sur l'influence du Kremlin sur la rédaction même de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut, nous, obtenir? Quelles sont les lignes rouges des Européens? Vous parlez de liberté, dignité. Ça veut dire quoi sur le terrain, en termes de forces armées, en termes aussi de concessions territoriales?
En fait, il ne peut pas vraiment y avoir de paix durable sans les Européens, par définition. Et donc, je vois de la logique de ligne rouge, et c'est très clair que la souveraineté de l'Ukraine n'est pas négociable, je viens de le dire. Mais surtout, pour vous dire très concrètement ce dont il s'agit, c'est qu'au fond, dans ce plan, dans les éléments de ce plan, il y a des choses qui stipulent pour les autres, c'est-à-dire pour l'Ukraine,
pour l'OTAN.
Et pour l'OTAN et pour l'Europe. Et ça... Il n'y a pas de configuration dans laquelle on ne discute pas avec les acteurs concernés de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Donc c'est ça le principal enjeu.
Alors justement, il y a des délégations européennes qui se rendent à Genève aujourd'hui en Suisse, une délégation allemande, britannique, une délégation aussi française, qui va aller négocier au nom de la France et quelles vont être nos demandes concrètes?
Alors là, il y a déjà une délégation française qui est arrivée à Genève, qui est menée par le conseiller diplomatique du président de la République. Moi, j'y vais après, là, en sortant de ce plateau. Concrètement, d'abord, ce qu'on voulait, et on l'a déjà obtenu, c'est qu'on négocie avec les Américains, avec les
Ukrainiens. Là-dessus, Donald Trump vous a donné le point cette nuit en disant on peut négocier.
Mais en fait, pour être très précise, les Américains disent qu'ils veulent la paix. Et ça, c'est une bonne chose. Nous aussi, depuis le début. La situation est grave, mais elle n'est pas complètement nouvelle. Ça fait depuis des mois que les Américains disent quoi? Ils disent qu'ils veulent la paix par la force. Les Européens veulent la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. C'est la Russie qui veut la guerre. Personne d'autre autour d'une table éventuelle. Donc, au fond, si on veut la paix par la force, eh ben, il faut négocier aussi cet élément de force. C'est là où j'imagine qu'on veut y revenir. L'Europe a pris ses responsabilités. On n'est pas exactement dans la situation d'il y a plusieurs mois. On a mis sur la table la coalition des volontaires, qui se réunira d'ailleurs mardi, et qui permet d'avoir cet élément
de
force.
C'est ça, pour vous, le point essentiel, le point, au fond, pour les Européens qui manquent dans ce plan? C'est la question du déploiement d'une forme de force en Ukraine qui, là, ne serait pas prévue par ce plan, ce serait en Pologne.
Un des points essentiels, il y a des éléments qui doivent être précisés. Honnêtement, je vais aller à Genève, la négociation est en cours, il faut dans ces cas-là... Encore une fois, on a déjà vécu des situations comme cet été, où il y avait eu la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Ça se répète un peu, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup, et qu'on met de plus en plus d'éléments sur la table qui nous permettent aussi d'avancer. Concrètement, il y a une histoire. On a déjà vécu des situations. Alors, c'était Budapest, le mémorandum de Budapest,
94.
Puis Minsk, voilà. Où, au fond, on a cru la Russie sur parole en disant... elle a dit, je promets, j'envahirai plus jamais l'Ukraine.
Rappelons d'un mot, mémorandum de Budapest, où on estime que, en gros, l'Ukraine doit abandonner une partie de ses armes parce qu'elle sera protégée en cas d'attaque. Et ça n'est pas arrivé.
Voilà. Donc, en fait, là, les éléments de limitation de l'armée ukrainienne, qui sont un élément de limitation de souveraineté, c'est pas acceptable. Parce qu'en fait, l'Ukraine doit pouvoir se défendre. On va quand même pas croire la Russie sur parole. La Russie veut la guerre et la fête à de très nombreuses reprises, au fond, au cours des dernières
années. Deuxième point que vous nous dites qui est bloquant,
Bloquant, j'ai pas dit que c'était bloquant, j'ai dit que c'était sur la table en discussion. Je rappelle que dans la coalition des volontaires, qui a été lancée justement pour travailler sur cet aspect des garanties de sécurité, pourquoi? Parce que sinon il y aura pas de paix robuste, durable, etc. Les Américains sont là, discutent avec nous. Steve Witkoff, vous savez, l'envoyé des États-Unis, était à la dernière réunion de la coalition des volontaires. militaire. Donc je ne dis pas que c'est un point de blocage, c'est un point de discussion.
Mmh. Est-ce qu'il y a un risque, si jamais l'Ukraine venait à refuser ce plan, qui, pour bien des points, vous l'avez évoqué, lui est extrêmement défavorable, est-ce qu'il y a un risque que les Américains se désengagent complètement et cessent tout soutien militaire envers Kiev ?
Écoutez, je pense que c'est pas dans l'intérêt, en fait, de la sécurité de l'espace euro-atlantique, comme on dit, c'est-à-dire pas dans l'intérêt des Européens ni des Américains de donner une victoire stratégique à la Russie. Fondamentalement, c'est pas dans notre intérêt. Pourquoi aussi ? Parce que si cette paix n'est pas durable, si elle n'est pas robuste, mais pour le coup, il y a un risque. Il y a un risque que la Russie continue et qu'on aille vers une logique de confrontation oui. ou de test. Il y a un risque. Donc, c'est, encore une fois, on est des puissances de paix. On est des alliés. Il y a une alliance atlantique qui est faite pour la paix. Et d'ailleurs, les Américains veulent la paix. Il faut dissuader, il faut être fort.
On sait que Donald Trump et Emmanuel Macron ont échangé ces dernières heures. Vous étiez, on le rappelle, conseillère de très proche d'Emmanuel Macron à la cellule diplomatique. Vous avez assisté de nombreuses fois à des échanges entre le président français et le président américain. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ?
Alors là, j'étais pas au dernier échange, mais ce que je sais, c'est pour l'avoir vécu le premier mandat de Donald Trump et en direct. Enfin, c'est qu'il y a vraiment une relation de travail et de confiance entre eux. Voilà, le président est capable d'être extrêmement direct tout en étant très respectueux. Et encore une fois, c'est des relations interpersonnelles qui appuient les relations d'État à État. Et je pense que là, moi, j'ai vu le président de la République commencer à travailler. Je l'ai accompagné dans une partie de son déplacement dans l'océan Indien. Il y a beaucoup de... Enfin, face à beaucoup d'agitation, et on voit, il y a beaucoup de calme, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de coordination, parce que ce dont on est en train de parler, c'est quand même de la sécurité de l'Europe.
Mais il y a aussi
donc il y a de la gravité et de la concentration.
Il y a aussi le sentiment que quand les Européens parlent à Donald Trump, ils arrivent à le convaincre, dont Emmanuel Macron, que quelques temps après, il parle à Vladimir Poutine et que la conviction se fait dans l'autre sens et qu'il faut tout recommencer depuis le début à chaque fois.
Je comprends ce que vous dites, simplement on ne recommence pas tout depuis le début.
Si on remet des étapes qui sont franchies quand
même. Si on remet en perspective quand même, mais sur la paix, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu. Je veux dire, le président de la République était en Ukraine avec ses homologues européens il y a quelques mois. Et vous vous souvenez, on était là pour parler de la coalition des volontaires qui était précisément une coalition pour la paix. Je n'ai pas encore entendu la Russie expliquer comment elle allait faire la paix.
Un mot encore sur les négociations du jour à Genève. Je rappelle qu'il y a cette deadline, cet ultimatum de Donald Trump, donc le 27 au 27 novembre, donc jour de Thanksgiving. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un plan sous 5 jours, ou est-ce que vous dites là on commence des négociations qui font partie en fait d'un cycle qu'on a entamé il y a déjà des mois et qui vont se poursuivre encore?
Alors là on entre dans une logique de négociation diplomatique où il y a des entrées en négociation qui sont parfois très importantes, très élevées, et puis ensuite on se retrouve et on discute. Donc je peux pas préjuger du résultat des négociations avant qu'elles commencent.
À vous dire, en 5 jours c'est pas simple quand on fait des négociations diplomatiques.
Ah non, c'est pas simple. En même temps, pour être honnête, le plus vite on obtiendra la paix par la force, que veulent les Américains d'ailleurs, le mieux ce sera. Mais si on n'obtient pas cet élément de robustesse et de durabilité de la paix qui passe par le respect de l'Ukraine, eh ben, ça ne tiendra pas.
L'Europe, on le sait, est engagée dans un processus de réarmement. Concernant la France et l'Allemagne, il y a ce projet d'avion du futur, le SCAF, pour système de combat aérien futur. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des discussions, c'est très compliqué puisque on parle de mastodontes, hein, Dassault, Airbus, extrêmement concurrents avec des positions pas forcément compatibles. Alors Emmanuel Macron, lui, il y croit encore, il pense que c'est toujours possible, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec ? On a l'impression que ça n'avance pas.
Alors, ça avance. Ça avance. Moi, j'ai fait plusieurs déplacements, dont un à Berlin, pour essayer d'en parler. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a rencontré son homologue. Le président de la République était allé à Berlin.
C'est au niveau des industriels que ça bloque ?
Ah bah, de toute façon, il y a eu des débats publics qui ont été faits.
C'est Dassault, effectivement, qui veut être chef de file de ce projet.
Je
ne
vais pas vous dire là, maintenant, oui, c'est facile, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la nécessité. Le SCAF, c'est pas simplement un avion, c'est un système. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une compétition internationale qui est très forte, avec des acteurs qui sont à la fois parfois nos rivaux et nos alliés qui vont très vite. Et oui, on a besoin d'un avion du futur européen. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est... Vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe, on réarme tous. Il faut faut absolument qu'on arrive à avoir des moyens qui sont extrêmement compétitifs à l'échelle internationale. Et de ce point de vue-là, la coopération franco-allemande comme la coopération européenne, c'est un atout formidable. Il faut absolument qu'on le joue pour avoir ce fameux avion de sixième génération qu'on veut. Nous, après, on a une position particulière en Europe qui est que on est une puissance nucléaire, on est une puissance dotée, on a des nécessités qui font qu'il faut que le programme se passe bien, respecte les délais, parce qu'il faut défendre l'Europe, et la France joue un rôle majeur là-dessus, et c'est là que les discussions doivent se prolonger. Il y a une décision qui sera prise en décembre, mais ce que je peux vous dire, c'est que les négociations sont
une décision sur
rapides.
Quoi
Sur l'avenir du SCAF, comment on continue à travailler ensemble.
Juste un tout petit mot quand même, parce qu'on parle du SCAF, mais il y a l'avion qu'on a actuellement, c'est le Rafale, et on parlait de l'Ukraine. Sans Rafale, c'est la promesse d'ici 2035 pour l'Ukraine. Alors, ce sont des intentions, on n'est pas encore dans une commande ferme. Comment l'Ukraine paye? C'est nous qui leur payons, ou comment ça se passe? Parce que certains peuvent s'inquiéter, on a vu ces jours-ci, de qui va payer.
Alors, vous avez raison, c'est la question des financements qui est absolument prioritaire, mais... Il y a des financements européens qui sont possibles. La question, c'est comment on les emploie. Ce qui s'est passé avec l'Ukraine la semaine dernière, c'est que c'est très important. C'est quoi? C'est on va construire ensemble votre armée future, avec notre base industrielle et technologique européenne, à laquelle l'Ukraine aspire. Elle a une aspiration européenne.
Vous pensez que tous les alliés de la France laisseront utiliser des fonds européens pour financer des avions français pour l'Ukraine?
Mais je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table, on mobilise des financements européens. Et quand on dit qu'on veut intégrer l'Ukraine, au fond, que l'Ukraine est la première de nos garanties de sécurité, ce qui est vrai, c'est une armée qui se bat tous les jours, qui nous protège dans la période actuelle, eh ben, il faut quand même qu'elle puisse s'appuyer sur les moyens d'une industrie européenne qui est forte, qui est solide. L'industrie française de défense est extrêmement forte. Et donc, il faut permettre de lui donner ses moyens. Ce qui ne sont pas simplement les rafales. Il y a aussi les moyens de protection aérienne. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le ciel ukrainien. Donc, c'est très important qu'on commence ce chemin irréversible vers nous.
Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Sirot.
De retour dans le 8-30 de France Info avec notre invitée ce matin, Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Alors évidemment, on voulait revenir avec vous sur cette déclaration qui a tant fait parler cette semaine, celle du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui a donc parlé d'accepter de perdre nos enfants par rapport à cette menace russe et aux conséquences très concrètes sur le sol européen, le sol français. D'un mot, le président l'a soutenu, il s'en est expliqué hier soir lui-même à la télévision. Est-ce que quand même il n'est pas allé trop loin sur la forme?
Alors moi j'ai relu son discours avant de venir pour relire à tête reposée. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a surpris dans son discours, je vous le dis très sincèrement.
Y compris ce passage, voilà, très précis sur nos enfants.
Bah, en fait c'est sûr que si vous sortez le passage, je crois qu'il a reconnu d'ailleurs lui-même hier.
Que ça avait inquiété aussi.
De toute évidence, et simplement c'est sûr que si vous sortez ce passage et que vous ne parlez que de ça et que vous ne lisez pas la totalité de son propos, oui je peux comprendre. Mais maintenant moi ce qui m'interpelle quand même un peu... Je vais être très sincère. Vous savez, j'ai lu les déclarations, par exemple, de Jean-Marie Bockel, qui, lui, a perdu son enfant au Mali. Et moi, j'ai le monde combattant avec la ministre dans mon portefeuille, donc je suis au contact des familles, des jeunes qui vont au combat pour nous. Et je me suis demandé ce que ces familles-là, qui parfois perdent des leurs... là, c'est récemment le cas, on a rendu hommage à une jeune femme qui est tombée au Liban, à un jeune homme qui est tombé en Guyane. Je me suis demandé ce qu'elles pensaient quand elles entendaient ces polémiques. Ce sont des gens qui... Il n'y a pas de paix sans défenseurs, et ces gens-là, ces jeunes s'engagent militairement et ils nous défendent. Donc, je voudrais juste rappeler ça, parce que dans toute la polémique qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'on les a un peu laissés de côté et c'est pas bien.
Et à ce propos, vous parlez justement de ce monde combattant. On voulait voir avec vous ce que prépare très concrètement le président de la République. Il y a bien sûr ce service national volontaire qui est donc dans un des projets du gouvernement. Et ce matin, la Tribune dimanche annonce que le président Emmanuel Macron s'exprimera cette semaine, peut-être jeudi, pour détailler cette nouvelle formule et ce nouveau cadre pour servir au sein de nos armées. Et le journal précise les modalités. Alors, service militaire basé sur le volontariat dès 2026, accessible à partir de 18 ans, payé entre 900 et 1000 euros par mois pour une durée de 10 mois. Est-ce que vous confirmez ce matin, Alice Ruffo, toutes ces pistes qui ont été dévoilées dans la presse?
Alors, je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne pour son discours habituel, traditionnel, il a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez dit, vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Et je veux peut-être juste un peu donner des éléments d'explication et de contexte. Vous avez, vous le savez, dans plusieurs pays européens, en ce moment, des réflexions là-dessus. La semaine dernière, j'ai reçu mon homologue suédois, qui est un modèle qui est en train d'être développé dans pas mal de pays européens. Bon, tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
C'est cette semaine que ça va être annoncé ?
Ça, je sais pas.
Alice Ruffaut, 50 000.
On y travaille, oui.
50 000 personnes, 50 000 volontaires d'ici 2035, c'est un horizon qui est réaliste.
Alors, vous savez, on a déjà dans la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, parlé de l'augmentation de la réserve opérationnelle. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate, un, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Voilà, elle existe, on peut avoir des débats, des polémiques, etc., mais il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'engagement militaire qui implique quand même des risques et des sacrifices très importants. Il y a d'autres formes d'engagement aussi qui peuvent être utiles et d'autres formes de compétences qui peuvent être utiles. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres. Et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense commune.
Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, j'ai un enfant de 18 ans » ou même des jeunes qui nous écoutent, ça consiste en quoi ? C'est 10 mois où on va servir concrètement dans l'armée dans le but de l'intégrer, ou 10 mois dans le but de faire partie de la réserve, ou 10 mois juste une expérience comme ça pour voir à quoi ça ressemble ?
Vous venez très bien de résumer les choses, il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900 000 euros par mois.
Ah bah écoutez, je vous dis que juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Un tout dernier mot pour finir. Est-ce que vous êtes inquiète, Alice Ruffaut, sur le fait que les crédits militaires soient bien portés à la hausse ? On sait qu'il y a 6,7 milliards d'euros qui sont prévus dans ce budget qui s'enlise au Parlement. Est-ce que, même si on passe par une loi spéciale, c'est ce que le gouvernement a esquissé cette semaine, ces crédits supplémentaires pour l'armée sont garantis ?
Non. Il faut qu'on ait un budget et il faut que le Parlement puisse l'adopter, parce que on ne peut pas juste se contenter de reconduire les crédits de l'année dernière. C'est un problème. Je ne suis pas inquiète, je suis déterminée. Il faut qu'on ait cette surmarche, ces 6,7 milliards, parce qu'il s'agit de notre sécurité. Et là, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut augmenter les moyens de la défense.
Et on entend votre appel, effectivement, à ce qu'il y ait un budget. Merci beaucoup, Alice Ruffaut, ministre déléguée aux armées, d'avoir été l'invitée du 8:30 France Info. Merci, Mathilde Sirot.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant. La nuit sur France Info, minuit 6h. La playlist France Info.
Les coups de cœur du service culture de France Info ce matin. Matteo Maestrachi, le groupe anglais The Stone Roses, un de ses membres éminents, est mort cette semaine d'ailleurs.
Gary Monfield, plus connu par son surnom de Manny, qui est décédé jeudi à 63 ans. Il était né en novembre 1962 à Crumsall, dans la banlieue nord de Manchester, dans une famille d'origine irlandaise. Et c'est après avoir quitté l'école à la fin des années 70 qu'il avait rejoint le groupe The Stone Roses en 1987 en remplacement de Pete Garner, bassiste original du groupe. Deux ans plus tard, en 1989, sort le désormais culte premier album éponyme des Stone Roses, porté par la chanson I Wanna Be Adored. Stone Roses, qui personnalise alors totalement le mouvement appelé Madchester, jeu de mots avec Manchester, sorte de mélange entre dance, pop et rock psychédélique, en compagnie notamment des Happy Mondays. Et sur ce disque, considéré maintenant comme un des plus influents de l'histoire du rock, la basse de Manny est un point cardinal important de l'ensemble, comme sur cet autre extrait, She Bangs the Drums.
«
Gary Moonfield participe aux deux albums studio des Stone Roses. Le deuxième, Second Coming, sort en 1994, deux ans avant la séparation du groupe, disque plus rock. On y retrouve entre autres ce titre « Love Spreads ». Après l'aventure Stone Roses, Manny avait rejoint le groupe écossais Primal Scream jusqu'en 2011, année où il était revenu en arrière en reformant le groupe mancunien qui a repris le chemin de la scène avec même quelques morceaux inédits jusqu'en 2017. Gary Moonfield était aussi un grand fan de Fléchettes et du club de foot local de Manchester United.
Matteo Maestrachi.
Ces chansons qui font l'actu, Bertrand Dical.
Cette semaine, l'actualité musicale, c'est aussi les Beatles. Non pas un de ces concerts à peine audibles que l'on écoute avec beaucoup de compassion pour quatre musiciens qui eux-mêmes s'entendaient à peine jouer en étant sur scène. Non, l'actualité, c'est le 30e anniversaire d'Anthologie, la première des compilations de trésors inédits des Beatles, des répétitions, des brouillons, des versions alternatives, des chansons qui ont changé le monde. Et pour fêter l'orgie beatlesienne de 1995, voici que sort le double album Anthologie.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
I'd like to be underneath the sea, in an octopus's garden.
La prise 26 de l'enregistrement de Strawberry Fields Forever, une répétition d'Octopus's Garden, encore des trésors, oui, mais rien de vraiment inédit, puisque ces versions-là sont déjà parues au cours des dernières années sur des rééditions augmentées des albums historiques des Beatles, y compris une chanson de Paul McCartney dont il n'était resté que quelques secondes sur le pressage original de l'album blanc. C'est un peu triste. Nous sommes 55 ans après la séparation des Beatles et il semble bien qu'il ne reste plus rien de nouveau à écouter. Et nous avons même la nostalgie d'une chanson qui, il y a 30 ans, faisait polémique parce qu'il s'agissait d'un titre posthume, mais maintenant c'est un classique. D'ailleurs, quand on remonte le temps, on se rend bien compte que parler des Beatles, c'est parler de l'éternité, oui, bien sûr, mais aussi d'une expérience générationnelle. En 1964, quand les Lionceaux adaptent Hard Day's Night en français, ils chantent la Beatlesmania au présent de l'indicatif, avant que 13 ans plus tard, Laurent Voulzy, qui l'a vécu, la chante à l'imparfait.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur.
Ensuite, les Beatles vont devenir une référence pour la génération qui les a découverts après leur séparation. Ils sont un mythe, certes, mais aussi la réalité d'un répertoire d'une influence encore puissante sur les imaginaires de la chanson française. Entre 2003 et 2013, la figure de Ringo Starr chez la Grande Sophie, Liverpool chez les Whippers Circus, le légendaire concert du Shea Stadium chez Vincent Delerme, la malchance de Peter Best chez Benoît Carré.
Ringo Starr.
Jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté.
Alors j'ai hurlé dans le Shea Stadium. Alors j'ai crié I love you, John.
Ils chantent Love Love Me Too. Pourquoi ils m'ont viré?
Et ensuite, Pour autant que les paroles des artistes des musiques populaires soient un indice, les Beatles deviennent peu à peu une référence, et seulement une référence. Un nom de star puissante du passé, cité parfois un peu au hasard. Entre 2009 et 2022, un vague souvenir chez Aurel San, HK et les Saltimbanques, Roméo Elvis.
Je suis les Beatles pour les jeunes ados.
On fera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon.
Café, 7h du mat.
Ainsi va le temps. Il n'y aura sans doute plus jamais d'inédits des Beatles qui ne sont peut-être plus autant indispensables à la découverte de la pop pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils changent les Beatles. Leur chanson la plus écoutée depuis l'apparition du streaming n'est pas un de leurs numéro 1 de jadis. C'est une chanson de 1969 sur l'album Abbey Road. En voici la prise numéro 9, présente sur Anthology 4, Here Comes the Sun.
But he